Le journal vous est présenté par Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. La Tunisie se fracture autour du bras de fer entre le président et le principal parti du Parlement. Manifestation jusque tard hier soir encore. Les capitales étrangères s'inquiètent de la période d'incertitude qui s'ouvre. Nous sommes sur place. L'économie à l'épreuve du pass sanitaire en France. Les cinémas, les parcs d'attractions voient leur fréquentation s'effondrer. Les établissements scolaires s'interrogent déjà sur l'organisation de la rentrée. Alors que le variant Delta progresse toujours, 7000 personnes hospitalisées hier en France. On en parle avec votre invitée Karine.
Oui, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. 40 millions de primo-vaccinés en France. Et après, comment maintenir le rythme? Comment convaincre les sceptiques? Faudra-t-il une troisième dose? À défaut, des traitements finiront-ils par voir le jour? Vos questions, vos témoignages, vos réactions, comme chaque matin au 01 45 24 7000. Rendez-vous tout à l'heure à 8h20.
Un procès au parfum de scandale au Vatican. 10 personnes jugées, dont un cardinal haut placé à l'époque des faits. Des surfeurs s'équipent de capteurs pour mesurer la pollution de l'eau sur la côte atlantique. Et puis les Jeux Olympiques, la judokate Clarisse Agbenienou comme une fusée. En demi-finale, déjà des moins de 63 kilos. Ce sera tout à l'heure à 10h30, évidemment, on suivra ça. Elvis Laure, on suit en ce moment l'épreuve de VTT féminine qui commence.
France Inter.
Deux camps, deux positions en Tunisie. Est-ce un coup d'État ou une solution pour sortir de l'impasse? La décision du président de s'octroyer le pouvoir exécutif et de barrer la route du Parlement bouleverse la population et fragilise la jeune démocratie. Les manifestants sont restés devant les grilles du Parlement une bonne partie de la nuit. Le pays est à un tournant, c'est le reportage de Lilia Blaise.
Les manifestations ont duré jusqu'au couvre-feu hier devant le Parlement, mais les grilles gardées par des chars militaires n'ont pas bougé. Devant ceux qui soutiennent que les décisions du président Kais Saied ressemblent à un coup d'État. Basma Bali, partisane des Narda et ancienne prisonnière politique sous la dictature, dit être venue manifester pour la liberté.
Pour moi, c'est un coup d'État. Il n'y a pas à tergiverser. Et un président qui veut s'emparer de tous les pouvoirs, ça reste un pas vers la dictature.
À ses côtés, le soixantenaire Mustapha Ben Charben se dit déçu du président Kais Saied.
Honnêtement, j'ai peur. Je sens qu'il n'y a aucune stabilité et nous n'avons pas de visibilité sur le futur. Et moi, je veux dire au président que j'avais voté pour lui, mais que ça ne signifie pas que je vais tolérer ou accepter les erreurs qu'il fait.
Côté partisan de Kais Saied, la jeunesse qu'il a élue en 2019 est venue grossir les rangs des manifestants en début de soirée. Sophia a 23 ans, elle est étudiante en journalisme.
Kais Saied n'est pas un tyran, c'est un homme de loi. Il respectera la constitution et je ne crois pas qu'il opprimerait ceux qui ont voté pour lui. Tous ces gens ici ont voté pour lui et les jeunes se sont retrouvés dans les décisions du président.
La journée s'est terminée dans le calme. Le président de la République a annoncé dans la soirée un couvre-feu à 19h et a appelé à éviter toute forme de violence ou d'anarchie.
Reportage RFI pour France Inter, signé Lilia Blaise. Et l'inquiétude des capitales étrangères. Paris souhaite le retour rapide à un fonctionnement normal des institutions. Les États-Unis appellent de leur côté au respect des principes démocratiques. Y a-t-il ou pas coup d'État? Le pays se divise, analyse d'Anthony Bélanger tout à l'heure, juste après ce journal.
Et à 8h04, la course contre le variant Delta se fait pressante.
Le nombre d'hospitalisations est repassé au-dessus de la barre des 7000 hier en France. 1000 malades en situation critique. Le port du masque en extérieur est donc redevenu obligatoire dans une vingtaine de départements, sur une partie ou la totalité des territoires. Et puis les établissements scolaires s'interrogent. S'ils échappent à l'obligation de contrôler un pass sanitaire des élèves, ils attendent tout de même un certain nombre de précisions sur l'organisation de la rentrée scolaire. Manuel Ruffez.
Ils veulent savoir déjà quel sera le protocole sanitaire à mettre en place à la rentrée. Masque, auto-test, dans la cour, en intérieur, à la cantine. Il va falloir organiser tout cela et organiser aussi ces centres de vaccination. Bruno Bobkiewicz, proviseur et secrétaire général du SNPDEN UNSA.
On a dit depuis le début qu'on n'était pas contre l'idée, mais dans la limite de nos compétences. C'est-à-dire, nous, on est prêts à accueillir des professionnels de la vaccination, mettre à disposition les locaux, distribuer les autorisations parentales et notre travail s'arrêtera là. On ne demande pas aux médecins de faire classe, ne demandons pas aux enseignants et proviseurs de vacciner.
Le soulagement, clairement pour eux, c'est d'avoir écarté la mise en place du pass sanitaire obligatoire au collège et au lycée.
Si on a gardé les établissements ouverts pendant toute la période, c'est pas pour interdire certains d'entre eux d'y accéder parce qu'ils n'ont pas accepté l'idée de se faire vacciner. Donc on met ça de côté et on se concentre sur les bonnes conditions d'une rentrée scolaire plutôt que d'être amené à trier les élèves à l'entrée, ce qui était objectivement et pas acceptable et pas faisable.
Quant aux enseignants, selon ce responsable syndical, 80% du personnel de l'éducation nationale serait déjà vacciné.
Et Jean-Michel Blanquer devrait préciser les choses dans les jours qui viennent. L'extension du pass sanitaire a déjà des conséquences sur la fréquentation des lieux de loisirs, que ce soit dans les théâtres, les cinémas ou les parcs d'attractions, qui disent avoir perdu jusqu'à 70% de leur clientèle la semaine dernière. L'extension, le projet de loi est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel qui devrait rendre son avis le 5 août prochain. Pour la CFDT, le texte vu par les parlementaires est plus équilibré, plus respectueux des travailleurs, puisque la menace d'un licenciement a été écartée pour les salariés qui ne présenteraient pas de passe sanitaire en règle. Ce n'est pas tout à fait l'avis de la CPME, côté entreprise, qui dénonce un no man's land, pointant notamment le fait que les salariés n'échapperaient pas complètement au risque d'être mis à la porte sans avoir droit au chômage. Et on ne peut pas dire que le marché de l'emploi soit au beau fixe en ce moment, même si la reprise permet de limiter la casse. On attend aujourd'hui les chiffres de Pôle emploi pour le mois de juin, mais on le sait, l'un des enjeux, c'est l'emploi des jeunes. 700 000 diplômés arrivent chaque année sur le marché du travail et ils auront beaucoup de mal à décrocher leur premier job en ce moment. Pôle emploi s'est donc associé à une académie gratuite pour former au métier du numérique. C'est le reportage de Laurent Kramer.
À partir du 15 août, on va essayer de faire en sorte qu'au moins la vue strat et la vue globale, vous l'ayez complètement. Et voilà, à vous de jouer.
Tout l'été, ces jeunes diplômés vont se former au marketing numérique. Wakil fait partie de ces diplômés systématiquement retoqués par l'employeur avant même un entretien d'embauche.
Moi, j'ai 21 ans, j'ai eu un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une année de fac et ensuite, j'ai validé 2 années en école de commerce. Et la grande réponse que j'ai souvent eue, c'est on a eu quelqu'un de plus expérimenté. Oui, j'ai pas d'expérience, mais il faut juste me donner une chance en fait. Je sais que je peux faire ma place, mais encore faudrait-il me la donner, quoi.
L'algorithme de Facebook.
En partenariat avec des entreprises et Pôle emploi, Origami forme gratuitement au marketing numérique grâce à des situations professionnelles au plus proche des attentes du secteur. Objectif, rassurer et convaincre l'employeur, explique Yann Gabet, fondateur de cette académie.
Il y a clairement du côté de l'entreprise un problème d'ouverture et un problème de donner sa chance à ces jeunes-là. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on crée une espèce de pont, c'est-à-dire qu'on va à la fois accompagner le jeune sur des compétences techniques et de l'autre côté, on va convaincre l'employeur qui fait qu'il sait que s'il recrute un jeune qui est issu de notre formation, bah, il a plus de chances que ce jeune démarre plus vite dans son entreprise et donc il prend moins de risques.
Un CDD de 6 à 12 mois attend chaque personne à l'issue de la formation. Origami a déjà ainsi formé gratuitement plus de 350 personnes en 3 ans.
Améliorer la formation professionnelle pour lutter contre le chômage, ce sera le thème ce soir du Téléphone Sonne à partir de 19h20. Priorité sécurité, 900 millions d'euros supplémentaires pour le budget du ministère de l'Intérieur, annonce hier du Premier ministre Jean Castex, alors que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était au commissariat de Créteil hier soir après l'agression de 3 policiers de la brigade anticriminalité dimanche à Bonneuil-sur-Marne. Ils tentaient de stopper un rodéo de moto quand ils ont été visés par des tirs de mortier. L'un des policiers est blessé au dos. 6 mineurs ont été interpellés. Et une troisième candidature déclaré à droite après Xavier Bertrand et Valérie Pécresse la semaine dernière. Le médecin et maire LR de la Garenne-Colombes, Philippe Juvin, est donc candidat à la présidentielle en passant par une primaire, il le dit ce matin au Figaro. Leur passion, c'est les vagues, mais les surfeurs de la côte atlantique ont une mission bien particulière cet été. Avant de monter sur leur planche, ils vont s'équiper de capteurs pour mesurer la pollution de l'eau. L'expérience est menée par l'association Surfrider Foundation et suivie pour France Inter par Sandy Dauphin.
Sur la plage de la Milady à Biarritz, Clément Moreno, surfeur et membre de l'association Surfrider Foundation, attache une bande en néoprène autour de la cheville. On dirait un protège-tibia bardé de mini-capteurs pour les polluants chimiques.
Hop. Donc on a des capteurs qui vont être très précis pour mesurer les métaux lourds. On a d'autres types de capteurs qui vont ressembler à des petites capsules de café par exemple, qui vont mesurer tous les polluants organiques. Donc ça va être par exemple les pesticides, les médicaments, les hydrocarbures. Là aujourd'hui quand on va surfer, on oublie totalement qu'on a ça à la jambe et ça nous embête pas, quoi.
Aujourd'hui, la très grande majorité des plages révèle une bonne qualité de l'eau de baignade d'après l'Agence européenne de l'environnement. Une évaluation incomplète d'après l'association Surfrider Foundation car elle ne prend en compte que la pollution bactériologique, celle qui donne par exemple des otites ou des gastro. Marc Valmassoni, l'un des porte-parole de l'association.
Dans le cadre de la réglementation sur les eaux de baignade, seulement les paramètres microbiens, en l'occurrence Escherichia coli et entérocoque, sont pris en compte pour classer une eau de baignade. Ce qu'on demande, c'est d'aller plus loin et c'est d'intégrer de nouveaux paramètres, notamment les paramètres chimiques.
Une dizaine de surfeurs capteurs participent à cette expérimentation menée avec l'Ifremer et l'Université de Bordeaux sur la côte basque, mais aussi en Bretagne et en Méditerranée.
Les vagues de chaleur ces 6 dernières années ont coûté entre 22 et 37 milliards d'euros. Fourchette donnée aujourd'hui par Santé publique France et dossier à retrouver sur franceinter.fr. Encore une décision du Conseil d'État qui pousse le gouvernement à rectifier le tir. Cette fois, il est question d'épandage de pesticides et des distances entre les champs traités et les habitations, entre 5 et 10 mètres selon les cultures. Ridiculement faible, jugent plusieurs associations, notamment pour les personnes qui travaillent à côté de ces zones. Le Conseil d'État donne 6 mois pour renforcer la protection de la population.
Un cardinal sur la sellette et un procès inédit au Vatican.
Procès au parfum de scandale, sur fond de corruption, de détournement de fonds, tout part de l'achat d'un immeuble de luxe à Londres en 2014. 10 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui, dont le numéro 3 du Vatican de l'époque, correspondant signé Bruce de Galzin.
Un cardinal jugé par un laïc au sein même du Vatican. C'est du jamais vu et c'est une réforme du pape François il y a à peine quelques mois qui l'a permis. C'est même un ancien procureur italien de la lutte anti-mafia qui dirige désormais le tribunal pénal du Vatican. Le pape veut donner l'exemple selon le cardinal secrétaire d'État numéro 2 du Vatican, Pietro Parolin.
Rien se fait dans les Saint-Siège sans le consensus de pape François. Et surtout cette décision, c'est important.
Pietro Parolin n'est pas poursuivi, lui qui dirige la secrétaire d'État au cœur du scandale. En revanche, plusieurs prélats et laïcs travaillant avec lui sont jugés, comme le cardinal Becciu, que le pape a démis de toutes ses fonctions et qui n'a cessé de clamer son innocence. Mais c'est bien au sein de son ministère que l'argent était géré et mal géré par nombre d'intermédiaires corrompus. Pietro Parolin.
On doit défendre l'honorabilité du Saint-Siège. Peut-être que quelqu'un il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Ce sera le jugement qui va l'établir. Et aussi pouvoir rentrer en possession au moins de partir de l'argent.
Le Vatican va perdre au moins 100 millions d'euros dans cette affaire. La secrétaire d'État, elle, n'est même plus autorisée à gérer son propre budget. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Ce nouveau drame de l'exil en Méditerranée, près de 60 migrants sont morts noyés au large de la Libye alors qu'ils cherchaient à rejoindre l'Europe. Hommes, femmes et enfants, ils sont des milliers à risquer ainsi leur vie en quête d'un avenir meilleur et comme un symbole, une marionnette géante commence aujourd'hui une longue marche de plusieurs semaines entre la Turquie et l'Angleterre pour sensibiliser à la cause des réfugiés. Isabelle Pasquier nous raconte.
Amal a 9 ans avec cette tunique fleurie et son regard inquiet. Cette petite géante syrienne va symboliser l'odyssée des réfugiés, car Amal est toutes les petites filles, tous les enfants perdus sur le chemin de l'exil. Dans ce récit dramaturgique, elle va traverser 8 pays pour tenter de retrouver sa maman en Angleterre. Elle a été créée par la Handspring Puppet Company et à chacune de ses 54 étapes, elle va jouer une scène différente. Son désespoir à Naples, le rejet des habitants à Berne, la rencontre d'un copain à Toulon. Claire Benjanin est la productrice de l'événement en France.
La petite Amal va traverser la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et ensuite l'Angleterre. Et tout le long de la route, la marche rassemblera des artistes, des municipalités qui vont accueillir Amal. Et la première question qu'on a demandé à ses habitants sur la route et aux artistes, cette petite fille arrive, elle est migrante, comment souhaitez-vous l'accueillir? Que souhaitez-vous lui transmettre, lui donner? Le message est positif, mais la narration est très proche de la narration que suivent les enfants migrants sur la route. C'est attirer l'attention sur les difficultés que ces enfants traversent en suivant une narration.
Et dans son odyssée, la petite géante va porter un message. Ne nous oubliez pas.
Un symbole à retrouver en photo sur franceinter.fr. Et puis on a les yeux rivés sur les tatamis de Tokyo aux Jeux Olympiques. La judokate Clarisse Agmenienou a été efficace ce matin. Bulldozer, tigresse, ses surnoms lui vont bien. Expéditif pour arriver déjà en demi-finale des moins de 63 kilos. Elle rêve de l'or olympique et c'est un espoir sérieux de médaille pour la France ce matin. Tout à l'heure, 10h30, on suivra ça. Est-ce qu'on en a un autre espoir de médaille avec l'épreuve féminine de VTT qui a commencé il y a quelques minutes, Fanny Lechevestrier?
On l'espère, on en a même deux chances de médaille avec Loana Lecomte qui pointe actuellement en quatrième position et Pauline Ferrand-Prévot qui était en tête de la course, qui a été victime d'un premier accro, mais elle reste bien placée à la sixième place. Pauline Ferrand-Prévot sur un parcours extrêmement compliqué, encore plus difficile que prévu à cause de la pluie, ça glisse de partout et c'est d'ailleurs ce qui a coûté une première chute à Pauline Ferrand-Prévot. Elle s'est relevée, mais comme il glisse, comme ça glisse avec la pierre, et on a dû mettre des crampons aux chaussures et ça ne facilite pas ensuite le retour sur le vélo. Elle a perdu du temps, mais les deux Françaises restent en lice pour un podium.
Merci beaucoup Fanny Lechevestrier. Je retiens ces deux espoirs de médailles. Vous êtes avec les moyens techniques de Radio France, évidemment, pour
et
France
Inter. Et on croise les doigts.
Tout à l'heure, 10h30 pour la judokate.
Merci Hélène. À demain, la météo.
La météo avec Pavillon France. La marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie Fromentin, le soleil prend ses quartiers d'été en Méditerranée.
Et du coup, ailleurs, et notamment sur le nord-ouest, la journée est encore perturbée. Des averses ont déboulé cette nuit vers la Bretagne et la Basse-Normandie. Elles ont gagné les Pays de la Loire ce matin, envahissant les Hauts-de-France, la région parisienne, le Poitou-Charentes et la Champagne-Ardenne. Elles se dirigent vers la Lorraine et le centre-Val de Loire qu'elles atteindront dans l'après-midi. Quelques averses sont aussi attendues sur les Pyrénées et les Alpes du Sud, essentiellement cet après-midi. Sous les averses les plus actives, des orages pourraient éclater. Et cette perturbation qui s'avance vers l'est et le sud va peu à peu laisser l'ouest de la Bretagne et le Cotentin au rayon du soleil, tandis que ce soleil qui se réfugie pour la journée sur l'ouest provençal, la Côte d'Azur et l'Occitanie.
Mais les températures sont fraîches.
Oui, comme toute cette semaine d'ailleurs, c'est la fraîcheur qui domine. Pour une fin de juillet, on est un peu juste 1 à 3 degrés sous les valeurs de saison. Les maximales s'échelonnent entre 19 et 24 degrés du nord au sud-ouest, mais atteignent 28 à 30 sur le quart sud-est, voire 30-33 dans la vallée du Rhône, sous le soleil donc. Il fera 21 à degrés à Orléans et Caen, 23 pour Paris et Bordeaux, 24 à Clermont-Ferrand, 25 degrés à Mulhouse, mais 28 à Toulouse, 29 degrés à Grenoble, Montpellier et Toulon, 30 degrés à Bastia et Marseille, jusqu'à 32 degrés à Nîmes.
Merci Stéphanie. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Le président tunisien qui assume à lui seul le pouvoir exécutif, peut-on parler de coup d'État à Tunis?
Vous voulez la réponse courte?
Oui.
Non. La réponse plus longue serait, il faut attendre pour voir. D'abord, ce qu'a fait le président tunisien dimanche est parfaitement constitutionnel et légal. Il a invoqué l'article 80 de la Constitution tunisienne comme il en a le droit. Celle-ci prévoit qu'en cas de péril menaçant les institutions de la nation, le président, Kais Saied en l'occurrence, reprend la main pour une période de 30 jours. Hors crise, il y a en Tunisie, il y a même une triple crise. Une crise économique d'abord, une crise politique ensuite. Depuis plusieurs mois, la présidence de la République et la majorité parlementaire, donc le Premier ministre, ont entamé une guerre de tranchées et de légitimité qui paralyse l'ensemble de l'État et de ses institutions. Une crise sanitaire enfin, le pays affronte une énième vague épidémique de Covid-19. Or, l'impréparation du système de santé tunisien est scandaleuse. On manque de tout à Tunis, alors même que l'épidémie dure depuis près de 2 ans, il fallait réagir.
Donc si je vous suis, tout est légal, tout est approprié.
Alors légal, oui, approprié, on verra, mais ça reste tout de même un coup de force infligé à une toute jeune démocratie. En clair, suspendre la démocratie d'un décret, c'est relativement facile. Sortir de cet état d'exception par le haut est au coup plus compliqué. Pour le moment, Kais Saied peut compter sur une popularité certaine, mesurée par les sondages et les premières réactions des Tunisiens. Par ailleurs, le grand syndicat local, l'UGTT, qui a souvent fait office de contre-pouvoir, lui a porté hier son soutien vigilant. Enfin, l'armée et les forces de sécurité semblent elles aussi s'être rangées de son côté. Alors il faut comprendre que contrairement à l'Égypte ou à l'Algérie, l'armée tunisienne n'est ni putschiste, ni même enquistée au pouvoir. Elle est légitimiste en Tunisie, point barre.
Donc la question est plutôt, Que va faire le président tunisien?
Et c'est là qu'on saute dans l'inconnu. Pour le moment, la presse et les médias restent libres, comme nulle part ailleurs au Maghreb, et les partis politiques peuvent manifester. Mais il y a tout de même quelques signes inquiétants pour tout observateur. Le président a évoqué la possibilité de lever lui-même l'immunité parlementaire de certains députés qu'il n'hésite pas par ailleurs à traiter de traîtres et de voleurs. Il y a ensuite le fait qu'il ne dispose d'aucune force politique sur laquelle s'appuyer. Or, si des élections devaient avoir lieu demain, c'est le nouveau parti d'Estourien qui s'imposerait, un parti populiste, revanchard et surtout nostalgique de l'époque du dictateur Ben Ali. Voilà le vrai problème, ce qu'on pourrait appeler la tentation du Zaïm, de l'homme fort et providentiel, et celle d'amender la constitution dans un sens plus présidentiel. Or, Kais Saied n'a jamais caché sa préférence pour ce type de régime qu'il incarnerait, bien sûr.
Merci Anthony Bollanger, et à demain. Alain Fischer, l'invité du Grand Entretien.